Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, affables et fabuleux, fariboleurs. Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'onde curieuse de ce jeudi 19 mars. Aujourd'hui, on parle de la journée mondiale du conte, qui est demain. Et oui, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du canari, ce qui n'est pas suffisamment étayé, mais on va s'en contenter pour cette introduction. Alors, vous pensez peut-être que ça n'a rien à voir avec la choucroute garnie du conte. Eh bien, faribole, vous vous racontez des histoires. En voici une autre. Le canari fait partie de la famille des serins. Vous connaissez sans doute ce chant en boucle avec des variations qui a donné le verbe seriner, c'est-à-dire qui se répète inlassablement. Eh bien, c'est un peu la définition du conteur, en tout cas celle dont nous a fait part Éric Derien lors d'une conversation qu'on a eue dans l'émission Le Salon Impromptu et qui sera rediffusée ce dimanche midi. Et dont nous diffusons un extrait aujourd'hui pour la journée mondiale du conte qui est demain, puisque aujourd'hui c'est le canari. Alors peut-être je vous ai perdu, il y a eu trop de retournements dans cette histoire, mais aujourd'hui on parle avec la conteuse Chloé Gabrielli du premier événement de la nouvelle formule de Parole en Festival qui aura lieu demain, vendredi 20 mars, à la médiathèque d'Aubenas de 17h à 20h30 pour la journée mondiale du conte, oui. Et on vous rediffuse un quart d'heure de cette enthousiasmante émission, Le Salon Impromptu, avec Patrice Rey, qui est le créateur du Musée des Croyances Populaires à Monastier-sur-Gazeille, et Éric Derien, conteur, qui sera demain à la médiathèque d'Aubenas. Mais avant tout ça, la bise à celui qui n'est pas du tout en train de se la raconter, là, derrière la console, puisque c'est sa première. Salut Jérôme!
Bonjour Sophie.
Et bonjour à tout le monde, puisqu'on est, on n'est pas en direct, presque, on y est presque. Et salut Sylvain qui se narre. Là,
hello.
Hello Sylvain, et bonjour Marion. Salut Marion, alors toi tu te la racontes jamais, et pourtant tu pourrais.
Ouais, c'est vrai.
Eh bien on t'écoute pour l'agenda.
On commence pour une information qui de lundi. À Saint-Cernin, une collecte de sang est organisée donc ce lundi 23 mars de 8h à 12h30 à l'espace Michel Poutvigne. Donc attention, c'est uniquement sur rendez-vous et il reste encore 72 créneaux disponibles. Et pour réserver, il faut appeler le 04 75 82 44 05 ou s'inscrire en ligne sur le site de Mon Rendez-vous Don de Sang. Ce soir, le cinéma Le Navire Aubenas diffuse l'avant-première du film de Yann Samuel, Compostelle, à 20h. La soirée se fait en partenariat avec le Rotary International au profit de la recherche sur le cerveau. Le film raconte l'histoire de Fred et Adam, un adolescent en rupture. Et grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé et lui, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d'abandon. Au fil des kilomètres, un lien fragile se tisse. Et encore un peu de cinéma, demain à 20h30 à la salle de cinéma de la Vesprade à Tueil, propose le film « Les enfants de la résistance ». Donc ce film entraîne le spectateur dans les aventures d'une bande de gamins pendant l'occupation allemande lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce soir, le café associatif Le Pas de Côté à Mercuet vous propose une boum de 18h30 à 22h30.
J'adore.
Au programme, une soirée pour danser, bouger, se lâcher sur une playlist bien festive avec du son, de la lumière et une bonne dose de bonne humeur. L'entrée est libre, mais l'adhésion à l'association est nécessaire à partir de 3€ pour l'année. Et on remet ça demain toujours au Pas de Côté avec une scène ouverte à partir de 19h30. Sur scène, on retrouvera Téline Escal en électropop, Talweg entre dub, blues et cumbia, puis Cyril Froger pour un set électro-poétique. L'entrée est toujours libre et il y aura aussi de quoi manger sur place. Demain à 19h30, rendez-vous à la salle de la crypte à Lagorce pour une sortie de résidence proposée par le collectif Bolnodak. Donc sous forme de lecture, cette première étape donnera à découvrir, à l'intérieur, il fait encore jour, un spectacle en préparation autour de la vie et de la mémoire des cinémas de quartier. C'est dans le cadre de l'autre saison portée par la compagnie La Ligne. L'entrée est gratuite avec réservation conseillée. « L'association Les Acroportés, qui fait la promotion de l'art et des artistes dans la ville de Joannas, ainsi que l'association Les Notes Intrépides, vous propose demain une soirée de printemps au jardin du Tao à Joannas. Donc dès 19h, l'association Les Acroportés vous invite à déguster un menu concocté par le chef Thibaut avant le concert de Johanna Goudal organisé par Les Notes Intrépides. Le repas est à 28€, donc pensez à réserver. Toutes les informations sont à retrouver sur le site Les Jardins du Tao. Et pour finir, la compagnie Instabili a déployé le projet De nous vivants, un nouveau projet art et sciences à Metz, tout au long de l'année, dans la communauté de communes Ardèche-Rhône-Coiron. Ce projet artistique déployé depuis l'automne a permis aux élèves de l'école primaire de Metz d'amorcer un travail de recherche et de création aux côtés des artistes et des scientifiques. Et donc demain a lieu la deuxième rencontre intitulée Architecture du vivant, avec au programme une proposition chorégraphique des enfants sur la place Cala, une exposition des œuvres des enfants à la chapelle Saint-Baptiste de Metz et une rencontre interactive avec Claire Lezieux. Donc cette proposition invite à réunir les publics autour de questionnements sur le corps, l'espace et l'environnement. Donc ça se passe demain à 17h30 à la place Cala à Metz.
Que d'événements enthousiasmants dans cet agenda. Merci beaucoup Marion. Allez, on passe tout de suite à la musique avec Tempête de glace.
Si je te vois pas par la fenêtre, ni dans la forêt d'érable, t'es pas dans la cabane à pêche, ni au magasin général. T'es-tu rendu au chalet, ou en train de faire une jam? T'es pas dans ton char, protégé du froid de la neige et des rafales. Silhouette noire sur blanc, de plus en plus petite, plus en plus loin. Silhouette noire sur blanc, reviens. Silhouette noire sur blanc, de plus en plus petite, de plus en plus loin. Silhouette noire sur blanc, reviens. Les raquettes ont disparu, c'est que t'es allé faire une marche. Cruel, la nature est devenue, et dans la neige tu te caches. La rivière coule comme le temps, mais il passe comme gel le lac. Et la nuit tombe lentement, le silence des flocons claque. Silhouette noire sur blanc, de plus en plus petite, de plus en plus loin. Silhouette noire sur blanc, reviens. Silhouette noire sur blanc, de plus en plus petite, plus en plus loin. Silhouette noire sur blanc, reviens. Aujourd'hui Colline a 20 ans, et chaque soir elle espère que soudain, noir sur blanc, réapparaît son père. Que dans la forêt d'épinette se détache une silhouette, que son papa retrouve sa trace dans la tempête de glace. De plus en plus petite,
plus en plus loin, de plus en plus petite, plus en plus loin, de plus en plus petite, plus en plus loin, silhouette noire sur blanc, viens.
On vient d'écouter Tempête de glace de Nils. Nils qui sera en trio, en concert, le 30 mai à 14h à Aubenas. Mais avant ça, Nils qui sera demain, vendredi 20 mars, à la médiathèque d'Aubenas, puisqu'il sera là pour le premier événement de la nouvelle formule de Parole en Festival, qui aura lieu donc demain, une bonne manière de célébrer la journée mondiale du conte. On en parle avec Chloé Gabrielli, qui est conteuse, enfin je ne sais pas si on te présente encore sur cette antenne, Chloé, salut.
Salut.
On t'entend tous les mercredis et les samedis à 16h. Tu es conteuse à l'association de contes AMAC, qui sévit à la fois ici et dans la région lyonnaise.
Oui, toute la région Auvergne-Rhône-Alpes même.
Même. Et tu diriges artistiquement Parole en Festival. Tu es donc la bonne personne pour nous parler de cet événement. Merci d'abord de prendre ces quelques minutes, même par téléphone.
Avec grand plaisir.
Alors, Parole en Festival, je le disais, le festival donc évolue. Pourquoi avoir changé le format ?
Alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais l'année dernière, on a fêté les 40 ans du festival et on a voulu une édition tout en partenariat, tout en co-construction avec les lieux où on allait, plutôt que de proposer seulement des spectacles un peu parachutés. Et en fait, cette formule nous a tellement plu et a tellement plu à nos partenaires qu'on a décidé de continuer à ne faire que des spectacles en partenariat. Mais ça implique aussi d'être plus souple sur le calendrier. Nous, on était seulement au mois de mai-juin, mais on a des partenaires qui ont des actions à d'autres moments de l'année. Donc, on a décidé que notre festival, maintenant, aurait lieu de mars à novembre. Donc, cette année, du 20 mars au 20 novembre, pour pouvoir être en partenariat avec tous les partenaires avec lesquels on aime tant travailler. Et puis 20 mars, c'était donc une date un peu phare, puisque comme tu l'as dit, c'est la journée mondiale du conte.
Le 20 novembre.
Que le conte est, le 20 mars, excuse-moi. La journée mondiale du conte est reconnue, par l'UNESCO comme étant faisant partie du patrimoine immatériel de l'humanité. Et chaque année, partout dans le monde, le 20 mars, on fête le conte. Et on n'avait encore jamais fait ça avec Parole en Festival. Donc ça a été une bonne idée de commencer Parole en Festival le 20 mars avec la journée mondiale du conte.
Et avec un premier partenaire, la médiathèque intercommunale.
Et oui, partenaire incontournable qui a vu naître le festival de conte en Ardèche, donc il y a 21 ans. C'est avec la médiathèque qu'on a commencé à travailler avec le plus de spectacles, la Comcom à l'époque et puis la médiathèque. Donc pour nous, c'était vraiment évident de travailler à nouveau avec la médiathèque. Et la Journée mondiale du conte a toute sa place dans une médiathèque, avec le lien entre la littérature orale et la littérature écrite, bien évidemment, et puis d'être à Aubenas aussi, qui est quand même un peu le centre de nos actions en Ardèche. Donc la médiathèque, une fois encore, a répondu présente, elle est très active au niveau culturel, donc une fois encore, elle a répondu présente à notre demande de partenariat. On est ravis d'y être demain vendredi de 17h à 20h30.
Alors justement, est-ce qu'on peut dévoiler un petit peu ce qui va se passer ? D'ailleurs, d'abord, vous serez nombreux.
Oui. Ils seront présents tous les artistes de l'association AMAC. On est 8 artistes. Il nous manque simplement notre artiste qui est de Martinique, qui lui n'a pas pu venir pour ça. Mais sinon, tous les autres seront là. On va retrouver Éric Derien, Anne Engui, Agnès Chavanon, moi-même, Nils, Orens Zoumenou, et puis Marius Sawadogo, et bien sûr, je vous l'ai dit, Ella Gabrielli avec son cheval. Donc il y aura du conte, des mythes, de la chanson, et puis une petite surprise, puisqu'on vient de rentrer dans l'association une petite nouvelle, une artiste équestre, qui donc fait des spectacles équestres avec son cheval, son chien, ses chevaux. Et je vous le donne en mille, elle s'appelle Ella Gabrielli. Les chiens ne font pas des chats, famille artistique s'agrandit.
Ni de chevaux, enfin, plus des chevaux là, ouais, si. D'ailleurs, donc, elle sera là demain avec une petite surprise. Elle sera aussi là le 21 juin pour un spectacle justement que vous faites en famille. C'est ça, le pied à l'étrier.
C'est ça, on l'a déjà donné l'année dernière au centre équestre Les Kiwis à Saint-Étienne-de-Fombelon, mais cette année on est accueilli par le magnifique théâtre antique d'Alba la Romaine, où on va pouvoir donner ce spectacle familial sur effectivement qu'est-ce qu'une famille d'artistes donne aux enfants qui arrivent, quelles sont les petites perles, quelles sont les pièces d'or qu'ils mettent dans la main des enfants pour qu'eux aussi deviennent artistes. Cette possibilité que tout soit possible justement, voilà, ouvrir le champ des possibles. Chez les artistes, c'est un peu comme ça. Et très souvent, les parents mettent le pied à l'étrier de leurs enfants, au sens propre comme au sens figuré. C'est ce que raconte ce spectacle-là, donc avec Nils, avec Ella Gabrielli et moi-même.
Super, ben, merci beaucoup. Donc ça, il faudra attendre un petit peu, ce sera le 21 juin.
Ouais, super émouvant, hein, portez vos mouchoirs.
Mais par contre, dès demain, il y aura peut-être sans doute aussi de l'émotion. Dès demain, donc vendredi 20 mars de 17h à 20h30 à la médiathèque Jean Ferrat. Écoute, merci beaucoup Chloé, c'était très court, mais là on va laisser la place à deux autres conteurs. Enfin, un artiste plasticien, c'est Patrice Serey, qui est collecteur d'histoire du Velay et qui a créé le musée des croyances populaires à Monastier-sur-Gazeille. Et Éric Derien, qui fait partie de l'association qui sera là demain aussi à la médiathèque. Éric, donc, qui est conteur, qui est fondateur des Contes éclatés à Saint-Paul-le-Jeune. Et ils sont venus au micro de Fréquence 7 pour l'émission Le Salon Impromptu, et qui, au-delà du narratif et du storytelling qui sont partout, revenaient aux fondamentaux, à savoir pourquoi on raconte des histoires, comment on s'y prend, qu'est-ce qui fait une bonne histoire, et puis si avant d'être fait d'atomes, on est fait d'histoire, alors est-ce qu'il est possible de proposer d'autres imaginaires? On vous livre quelques extraits de cette émission tout de suite, émission que vous pouvez retrouver soit dimanche à midi, soit en replay sur notre site fréquence7.net à la page de l'émission. Merci beaucoup Chloé.
Merci beaucoup Sophie, à très bientôt.
Alors, le mot histoire, déjà, ça veut dire ce qui est vrai et ça veut dire ce qui est faux. On parle de l'histoire du monde, l'histoire de France, ce qui est censé être vrai, mais on va dire aussi, ça, ce n'est qu'une histoire, c'est une histoire. Ouais. Donc, ce mot est à double sens et antithétique, en fait, quoi, voilà. Et une histoire, c'est quelque chose qui va toujours rassembler les gens et qui va montrer qui sont les gens. Jean Cocteau, par exemple, disait « L'histoire, c'est du vrai qui se déforme et la légende du faux qui s'incarne. » Et c'est vrai que ce que racontent les gens, les histoires qu'ils aiment, en dit beaucoup plus d'eux-mêmes que leur histoire. Voilà, c'est encore une fois le même mot. Par exemple, on comprend beaucoup mieux ce qu'était un grec de l'Antiquité par sa mythologie que, par exemple, dire en 28 avant Jésus-Christ, telle personne a été élue stratège à Athènes.
Et ça me fait juste penser à une petite anecdote, le bonheur que j'ai eu en rencontrant un conteur togolais qui venait de Zaba. Et à un moment, on discute et il me raconte un truc de son village, hein. Il me dit comme ça, tu sais ce que c'est qu'un philosophe? C'est un aveugle qui cherche dans une chambre noire un chat noir qui n'y est pas. Et là où il m'a fait plaisir, c'est que moi je racontais déjà depuis quelques années un dialogue des Pères du Désert qui commence, c'est exactement la même phrase, sauf qu'après il rajoute ces Pères du Désert et un théologien, c'est quoi? C'est la même chose, mais des fois il trouve le chat. Mais exactement la même histoire qu'avait traversé le Sahara, dans un sens, qui s'était installé dans son village, comme pour lui c'est un truc de son village, que moi j'avais trouvé ailleurs, et que plus tard avec les années j'ai retrouvé dans des cultures du Maghreb, qu'on retrouve dans des cultures juives d'Europe de l'Est. Alors c'est caché derrière des mots différents, hein, mais alors, c'est une sacrée question, qu'est-ce qu'une bonne histoire? Et déjà moi, il y a un truc par rapport à ce que tu disais sur... Les gens qui racontaient comme c'était raconté, que ça bougeait pas d'une ligne. Et j'ai un malin plaisir, entre autres dans le monde des conteurs et des conteuses, de dire comme ça, « Ah, mais moi, j'ai choisi le métier le moins original du monde. » On raconte des trucs qui, de toute façon, se racontent depuis des siècles et des siècles. Mais là, je raconte une histoire en disant ça. Mmh. À une époque où il y a une espèce de culte de l'originalité, de l'individualité, tu vois, là déjà, je raconte une histoire. Bon. Je crois qu'une bonne histoire, ça va être super benet, ma réponse, de base. C'est une histoire qui fait du bien. Qui fait du bien aux gens, qui fait du bien au peuple, qui fait du bien à la terre. Une histoire qui fait du bien. Et ça peut prendre plein de couleurs, plein de connotations différentes. On a parlé tout à l'heure du partage. Je travaille beaucoup sur les mythologies, entre autres pour une raison. C'est qu'en fait, on soigne les peurs d'apprendre. Par exemple, des enfants qui sont en complet refus d'apprentissage, qui à 10 ans ne peuvent pas faire base si tu leur donnes un B et un A, en leur racontant simplement de la mythologie, quelle que soit la mythologie, tu les ramènes à l'apprentissage de la lecture et d'écriture en un an. Alors ça, j'ai pratiqué avec des enfants de la protection judiciaire de la jeunesse qui étaient dans des états pas possibles, avec des ados en insertion, pareil, dans des publics durs, et aussi avec tous les petits blessés qu'on est tous, hein, ce qui soigne les grands blessés, ça soigne les petits blessés. Et déjà, c'est énorme comment ça fait du bien, comment ça soigne dans l'inconscient. Pour moi, là, déjà, c'est une bonne histoire. Et c'est sans doute pour ça qu'il y a des histoires qu'on continue à raconter depuis des milliers d'années, comme toutes ces mythologies, que ce soit des mythologies celtes, grecques, bibliques, même topo. Ça fait du bien. Après, il y a d'autres façons de faire du bien. Il y a, quand tu disais tout à l'heure, les mythes, les contes, les légendes, les infos à la télé, tout ça, c'est, il y a beaucoup de nuances, ça marche pas pareil, c'est pas les mêmes tenants et aboutissants. T'as d'autres histoires qui font du bien dans le sens où elles nous préviennent, elles nous avertissent. Alors ça nous empêchera pas de faire des conneries, de tomber, mais quand on va se relever, on aura parfois des phrases un peu comme des proverbes qui vont nous permettre de penser notre expérience, de nous raconter ce qu'on vient de vivre. Et peut-être que là, il y a un truc, c'est qu'en fait, peut-être que toutes ces histoires, peut-être une bonne histoire, c'est une histoire qui me permet de me raconter. Parce que j'ai besoin de me faire mon récit de moi-même par rapport au chaos d'existence, de pouvoir m'organiser. Par exemple, moi je raconte beaucoup l'Odyssée d'Ulysse, et en fait, où il n'y a ni bien ni mal. Certes, Ulysse est le roi des malins, c'est aussi parfois le roi des crétins. Certes, il y a des moments où il est d'une noblesse, mais il y a des moments où c'est un gros barbare dégueulasse quand même. Hein. C'est quand il rentre à la maison, il va commencer par mettre à mort toutes ses esclaves de son palais. Hein. Bon, c'est un peu... Bon, tu vois, il n'y a ni bien ni mal. Par contre, il y a des choses dedans qui, moi, m'ont techniquement, pratiquement, vraiment rendu service. Alors, je ne parle pas du fait que dans l'Odyssée d'Ulysse, on apprend à tailler un morceau d'olivier, à faire chauffer la pointe au feu, donc des trucs très techniques si on veut avoir du bois dur comme de l'acier, pour crever l'œil d'un cyclope. Je parle juste aussi du fait de... Jamais il n'oublie d'où il vient, et jamais il n'oublie le chemin du retour. Quelles que soient les galères, tu vois, il y a cette opiniâtreté. Ben, moi, il y a des périodes de ma vie... Waouh, ben ça... C'est ça qui m'a sauvé la life, quoi. Il y a une petite phrase qui vient des Sioux, qui dit juste « Les scientifiques nous disent qu'on est constitué d'atomes, certes, mais nous, les Dakotas, savons qu'on est constitué d'histoires. » Et moi, je crois que, c'est pour ça que je fais staff, que ben, si je suis constitué d'histoires, j'ai envie de faire attention aux histoires que j'ingère, aux histoires que je transmets, parce que ben, une histoire, on peut être constitué de bonnes choses comme de poison, quoi.
Et oui, se faire du bien, Eric, avec une histoire, ça peut vouloir dire des choses très différentes.
Ouais, voilà, c'est là que je parlais par exemple des mythologies qui viennent soigner dans l'inconscient et qui permettent de revenir vers l'apprentissage, vers d'ouvrir de la place dans le cerveau. Je parlais de certains contes qui nous préviennent, qui avertissent. Certains types d'histoires nous offrent de nouvelles fenêtres dans la tête, par exemple, pour quelqu'un qui a grandi en Occident, d'entendre des contes soufis où il n'y a aucune vérité. Le monde se sépare pas entre vérité et mensonge. Non, il n'y a qu'une multiplicité de points de vue. Ça peut, voilà, dans ce sens-là, faire du bien, mais en effet, il faut se méfier de ce terme. Je suis d'accord. J'aime beaucoup de rappeler cette distinction entre hédonisme et épicurien. Aujourd'hui, on nous fait croire que l'épicurien, le bon vivant, le bon... Oui, mais l'épicurien, c'est le bon vivant dans le sens où l'objectif dans ma vie humaine, c'est d'en profiter, de bien vivre, Par contre, je ne suis pas complètement débile. Un plaisir de maintenant qui m'apporterait grande souffrance dans les jours qui viennent, dans les temps qui viennent, je sais m'en passer, c'est ça être bon vivant, et une douleur actuelle, mais qui m'apporterait bonheur dans les temps qui viennent, ben, j'accepte de la traverser. Et là, je reviens à Ulysse, qui pendant 9 années va être perdu sur des mers inconnues, mais il lâche pas d'affaire pour pouvoir rentrer chez lui, retrouver son identité. Donc c'est vrai que se faire du bien, il faut se méfier, surtout aujourd'hui où c'est le tout de suite, maintenant. Mais en fait, qui ne fait pas du bien à terme, quoi.
On discute d'histoire et on a l'impression, et c'était aussi un petit peu le sens de mes questions, où j'essayais de vous faire dire quels sont les bons ingrédients d'une histoire et d'imaginaire. Parce que tu disais, avec ton proverbe Sioux, Eric, on est constitué... Avant tout, au-delà même des atomes, on est constitué d'histoires. Donc attention aux histoires qu'on se met en nous, j'allais dire même pas forcément entre les oreilles, c'est partout en nous, on est constitué d'histoires. Et ces imaginaires, est-ce qu'on peut... comment vous pouvez, les conteurs, les raconteurs d'histoires au sens large, justement, influencer pour avoir... des types d'histoires. Je voudrais juste... Alors, ça tombe bien. Hier, alors que j'étais alitée, complètement fébrile, je suis tombée sur un texte d'Ursula Le Guin, ou Le Guin, je ne sais pas comment on prononce, en 86, où elle souhaitait substituer ce qu'elle appelait une histoire panier à l'histoire lance. Et elle s'appuyait sur des travaux d'Elizabeth Fisher, qui était une anthropologue, dans Women's Creation, c'était en 1980. En gros, c'est au paléolithique, au néolithique, la subsistance consistait avant tout en collecte, donc cueillette, collecte de mollusques, etc. Et pourtant, alors que c'était peut-être 20%, certains partaient chasser le mammouth. Mais c'est avec ces... En fait, ils revenaient de temps en temps avec de la viande, mais surtout, autour du feu, ils revenaient avec des histoires. Et cette histoire... Et donc, l'histoire est venue... L'histoire lance, l'histoire épée, l'histoire pointe, selon les traductions. Et elle se dit, est-ce qu'il est possible d'inventer d'autres histoires qui ne soient pas des histoires avec... un héros symbole viriliste, le héros solitaire, a une histoire spectaculaire, mais plutôt, est-ce qu'il n'est pas possible d'imaginer des histoires pleines de commencements sans fin, d'initiation, de pertes, avec plus de ruses que de conflits, moins de triomphes que de pièges et d'illusions? Et si vous voulez bien, je vais juste lire un petit morceau de son texte, et puis après je vous laisse la parole. Donc c'était ce texte s'appelle « La théorie de la fiction panier », c'est un texte de 7 pages, j'en lis juste un extrait. « Le roman est fondamentalement une forme d'histoire non héroïque. Bien sûr, le héros y a souvent pris le pouvoir, c'est la conséquence de son caractère impérial et de ses pulsions incontrôlables, une tendance à tout conquérir et à tout diriger, en édictant dans le même temps des lois et des décrets sévères afin de contrôler son incontrôlable envie de tout tuer. » Le héros a donc décrété, à travers la voix de ses porte-paroles, les législateurs, premièrement, que la forme adéquate du récit est celle de la flèche ou de la lance partant d'ici et filant tout droit jusque-là et tchac, touchant son but, qui tombe raide mort. Deuxièmement, que la principale affaire du récit, y compris du roman, c'est le conflit. Et troisièmement, qu'une histoire n'est pas bonne si lui, le héros, n'en fait pas partie. Je suis en désaccord avec tout cela. J'irais même jusqu'à dire que la forme naturelle, ajustée, adéquate du roman serait plutôt celle d'un panier, d'un sac. Un livre contient des mots, les mots contiennent des choses, ils portent des sens. Un roman est un sac médecine contenant des choses prises ensemble dans une relation singulière et puissante. Voilà, Ursula Le Guin, La théorie de la fiction panier, en 1986.
Je ne peux pas m'empêcher de rajouter ça, c'est que dans un conte, dans un mythe, quand je raconte, je suis tous les personnages. Et le public, quand il écoute, il est tous les personnages. Je suis le petit chaperon rouge, je suis aussi le loup. Je suis le cyclope, je suis Ulysse. Je suis tout ça à la fois. Donc ce serait dommage de transformer ces trucs, des histoires qui ont une grande richesse, et je crois que c'est vers ça que Damasio, Heyerdahl, Ursula Le Guin vont. C'est retrouver cette, ce truc qui part dans tous les sens d'une grande richesse. Ce serait dommage de transformer ça en espèce de tract. Ce serait aussi triste que de le transformer en divertissement, en fait. Mmh. En tant que conteur, est-ce qu'on peut avoir une petite chance de trouver d'autres imaginaires?
Ouais.
Et je crois que ça, il y a des romanciers en ce moment, très nombreux, qui y répondent. Donc toute sa bande des éditions La Vote, entre autres, hein, qui sont dans le combat des imaginaires. En tant que conteur, j'aurais juste... Parce que je l'ai dit, un conteur, c'est quelqu'un qui répète des trucs qui existent déjà. Aucune originalité, j'adore ça. Est-ce qu'on peut pas commencer juste par aller retrouver les autres structures d'imaginaire qui sont déjà là, autour de nous, que ce soit dans le passé, que ce soit dans la géographie. Et là, ça va bousculer plein de choses. Tout à l'heure, ça a parlé de Merlin. On en avait parlé une fois ensemble déjà. Et si tu prends Merlin, t'es que les versions les plus connues aujourd'hui, fils d'un démon, tu vois, qui est entre Dieu et diable. Mais si tu vas creuser plus loin, si tu vas creuser avant, où il y avait d'autres structures d'imaginaire chez les peuples ici même, eh ben on a un autre Merlin qui porte tout un autre imaginaire où il n'y a plus du tout de bien et de mal, où il n'y a plus du tout tout ce vernis catholique, où on est dans quelque chose de très très tellurique. Merlin est aussi un sale con, parfois, un homme sauvage, brutal, enfin, on est dans un autre imaginaire. Pour prendre un autre exemple, je parlais tout à l'heure des contes soufis. Brusquement, moi, ça a été énorme comme rencontre, parce que dans une culture qui sépare entre mensonge et vérité, gentil et méchant, bien et mal, on a tout un répertoire d'histoires qui sont là devant notre nez et où ça fonctionne pas du tout comme ça, où il n'y a que des multiplicités de points de vue. Il n'y a pas de vérité. Il y a juste, on ne regarde pas du même endroit. Et ça, je trouve que ça ouvre plein de trucs. C'est d'autres imaginaires. Et on les a dans notre propre culture. Après, il faut les retrouver. Hein. Faut les reconnaître, faut les renifler. Mais moi, je sais qu'il y a des versions de certains contes que j'ai connus au départ comme contes soufis. Il y a des histoires que racontait Jaheddin à Rumi au 11e ou 13e siècle, je ne sais plus les dates, qu'on retrouve dans le Philoctetos grec au 3e siècle, mais qu'on retrouve chez Coluche et dans des BD de Villemin. Alors, c'est pas traité pareil. Chez Coluche, c'est l'histoire d'un mec. Chez Villemin, c'est vite très dégueulasse. Mais derrière, en fait, c'est la même histoire où dans sa structure même de l'histoire, il se passe quelque chose dans l'imaginaire, parce que tu déroules un fil, tu décris une situation, et la phrase de chute vient juste te proposer de regarder le même fil, la même situation, mais depuis un autre point de vue.
On reste là-dessus. Merci à Patrice Ray, créateur du musée des croyances populaires Monastier-sur-Gazeille, et à Éric Derien, conteur, que vous venez d'entendre, puisque c'était un extrait de l'émission Le Salon Impromptu, que vous retrouverez dimanche midi ou déjà sur notre site internet. Je vous rappelle, demain de 17h à 20h30 pour la Journée mondiale du conte, vous pourrez retrouver Éric, donc Chloé et tous les autres conteurs de la MAC à la médiathèque d'Aubenas. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci et bravo, Jérôme, pour ta première.
Merci beaucoup.
Merci, Sylvain, et merci, Marion. On se retrouve tout de suite là, pour la suite des programmes, puisqu'à 15h, c'est le Télex, à 17h, la rediffusion de cette onde curieuse, à 19h, éclectrique, et à 21h, état brut. Demain, c'est Cinémascope, à 12h10, et puis lundi, dans la prochaine onde curieuse, on parlera cinéma palestinien avec le festival Palestine en vue, qui aura lieu du 26 au 29 mars au navire à Aubenas. Ciao.